première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Paul Bury disait que La Louvière était une ville qui était une des plus moches au monde.
À La Louvière, au centre des Libules & Co, jusqu'au 5 mai, les incongrus.
Je pense qu'en fait, et je l'ai remarqué aussi en lisant la biographie de PJ dont on vient de recevoir le fond, qui s'est inspiré en fait de cette laideur quelque part.
Les archives sortent de leur réserve. Avec Églantine Lebac, Aurélie Willems, Marie-Blanche Delattre et Georges Vercheval.
Il faut aller au-delà de la laideur, aller plus loin, pour chercher un peu à mettre en avant une certaine forme de créativité.
Et les voix de André Balthazar, interviewé à l'occasion de l'exposition à la Maison du spectacle La Bellone à Bruxelles, Les 40 ballets et quelques du Délibule, en 1998.
Quand on est dans une ville qui n'est peut-être pas au niveau architectural phénoménal, une ville comme Paris où on peut s'asseoir quelque part un peu sur son patrimoine, on va le chercher ailleurs. Et donc, est-ce que ça éveille l'imagination et la créativité? Je pense en tout cas que c'est lié à ça, donc de pouvoir se dépasser aussi dans d'autres domaines que ce qu'on peut voir facilement en tout cas.
Et Pierre Putemans, à l'occasion d'exposition à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, de la revue Fantomas, en 2005.
André Balthazar, j'ai devant moi le catalogue de l'exposition Le Délibule 2.40 ballets. Façon de parler, ballets. Et quand on ouvre le catalogue, il commence par un entretien entre vous et Jean-Pierre Verheugen. Et je crois que ça commence par le nom de la rue où on se trouve. Rue, non pas du Délibule, mais rue Délibule.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tentop, me tentententum, stélie.
Le monde invisible.
D'abord Nouget, et puis Blavier, Tamélé. On sait que le Délibule, tout comme Fantomas, appartient un petit peu à la mythologie de la Belgique sauvage, telle que certains l'ont appelée.
Et je pensais, en venant ici à La Louvière, que cette ville, qui est toute petite, a quatre foyers culturels très importants. Je pense à Keramis, oui. Musée Yankelevici, Centre de la Gravure et Centre du Délibule où nous sommes. C'est assez extraordinaire, c'est un peu unique.
Oui, c'est unique. Il n'y a pas longtemps, on a eu une journaliste française, d'ailleurs, qui est venue faire un reportage, qui était tout à fait étonnée de voir le patrimoine culturel au centimètre carré, pratiquement ici, à La Louvière. Donc, et dans des domaines différents, que ce soit l'impression, que ce soit la céramique, que ce soit le centre des Libules, nos archives, ou le musée Yankelevici avec ses sculptures particulières, mais aussi toutes les collections de la ville, hein, qui sont assez phénoménales aussi.
Les incongrus par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Quant à la rue Délibule, c'est une initiative qui appartient exclusivement à l'administration de la ville de La Louvière. Au moment des fusions de communes, un certain nombre de rues dans cette région à vieille histoire de gauche comptait de nombreuses rues de même nom, des rues Ferrer, des rues Gambetta, des rues Matteotti. Jules Thirière, personnage de la région, issu de Saint-Va, ancien chirurgien de Léopold II, qui avait créé l'école de médecine qui allait devenir l'ULB à Bruxelles, avait aussi ses rues. Il n'était pas de la même couleur politique, mais en fait, il était des mêmes racines en tout cas de notre, dans notre région. Bon, donc, il s'agissait de débaptiser l'une et l'autre des rues à nom double ou triple, et ce fut le cas de la nôtre, qui était la plus petite, ce qui mécontentait moins d'habitants que de plus longues. Et sans qu'on demande à quoi que ce soit, qui que ce soit, la rue Thirière est devenue rue Délibule, qui se voulait d'abord, pour les autorités, la rue du Délibule. Et là, j'ai un peu contrer le tir, parce que je trouvais que c'était une façon de s'approprier un espace qui ne nous appartenait pas. Nous étions méconnus dans un petit coin de rue. Il ne s'agissait pas d'accaparer l'ensemble des 200 mètres pour en faire un peu notre chantier. Et voilà, et puis on en était très, finalement, au départ un petit peu inquiet parce que ça crée toujours des ennuis aux voisins, des regards un petit peu agressifs, ou je ne suis pas agressif, un petit peu quand même gênant. Mais tout s'est bien passé, et puis ça s'est terminé par des inaugurations à caractère officiel, en tout bien tout honneur, c'est-à-dire aussi à grand fracas de fanfare, hein, de tonneaux de vin, d'amis venus d'un peu partout. On revient à la notion d'amitié, aussi bien de l'étranger, c'est-à-dire des provinces voisines, que de l'autre étranger, des pays voisins. Et on s'est bien amusé, ça se terminait par de grands discours, des élans rhétoriques aux dimensions qui, sans être apocalyptiques, hein, étaient chargés en tout cas d'une sorte de tendresse où pour moi j'y mets une des qualités aussi de l'humour. L'humour, c'est une façon de se protéger. La tendresse, c'est une façon d'offrir. Et offrir en se protégeant, ben, ça mêle les deux.
André Balthazar avait des boîtes assez similaires, mais celles-ci sont vraiment top au niveau de la conservation des documents. Donc ce qu'on voulait faire dans un premier temps, c'était montrer les différents fonds d'archives qui composent les collections du Centre Délibule & Co. à travers l'objet physique qui les représente, c'est-à-dire la boîte d'archives. Mais en même temps, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est qu'un fonds d'archives, une ou des personnes derrière aussi. Donc on voulait les rendre humains, parce que ben, parfois on retient le nom fonds Putemans, le nom fonds Brucker, mais qui étaient ces gens? Et donc ça, c'était important pour nous de les présenter dès l'entrée de l'exposition.
La Belgique sauvage, le mot sauvage est un mot charmant. Qui, à l'époque, je crois, créait, à travers des articles parus dans Fantomas, voulait surtout préciser que cette Belgique plus ou moins littéraire, hein, voulait s'écarter des chemins trop battus par une autre forme de littérature qui était celle des académies un peu accapareuses et omniprésentes. C'était ça, cette sauvagerie. Mais nous n'avons jamais souhaité, quant à nous, du mot Délibule, beaucoup plus désinvolte peut-être que d'autres, à nous garnir des plumes du peau rouge que Chavez avait plus d'une fois garni son chapeau, hein, le vieux peau rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne. Bon, il y a des mots qui font bien, qui font tilt, mais en dehors des mots, il y a les réalités. Notre désinvolture était justement de ne pas vouloir s'enfermer dans des contingences, qui est parfois plus secrètement embarrassante, qui est celle de la liberté qu'on veut se donner, ou de l'insouciance qu'on veut se donner pour la laisser croire aux autres. Nous avons toujours joué non pas entre deux eaux, mais entre beaucoup d'eau. parce que peut-être, et je ne sais pas si Paul Bury serait tout à fait d'accord avec ma façon de voir, mais une chose en tout cas qui dans l'aventure des libules m'a toujours fort intéressé, c'était de brouiller les pistes. Mais brouiller les pistes, c'est aussi brouiller les courants. Hein, c'est brouiller non pas les courants d'air, mais aussi les courants d'eau. Et c'est dans tout ce millimélo où un brin de philosophie fausse rejoint un brin de sagesse vraie, un brin de poésie illusoire rejoint un point de poésie peut-être plus, même ténue, mais plus vraie, plus présente, fait cette espèce d'atmosphère que le Délibule, les œuvres qui ont été publiées sous son nom, les revues à sujets qui ont été réunis sous son nom, fait sa petite originalité. Et que ce soit dans notre province, ici, et dans notre petite Louvière, et dans notre petite rue, et sous notre petit toit, que cela se fit, tant mieux.
En les présentant à travers des citations, soit leurs propres citations ou des citations qui leur ont été dédiées ou consacrées, et avec des mots-clés, en fait, des hashtags qui sont très, très utilisés aujourd'hui.
Ah, chasser le naturé, je reviens toujours à vélo. J'avais l'a dit, l'a affirmé, et je crois que c'est vrai, il a dit aussi d'ailleurs que c'est au pied du mur qu'on voit le limaçon. Et vous savez que le limaçon et l'escargot sont de la même famille, sont même frères, je crois, sinon cousins germains, mais en tout cas, je crois même frères. Et que l'escargot appartient à notre mythologie.
André Balthazar.
Je dois beaucoup à ce propos à Marcel Avrène, qui en 1957 avait proposé comme emblème pour la pensée bulle justement le limaçon qui, replié sur lui-même, devait suggérer l'image de l'éclair. Et je crois que là aussi, l'ambiguïté qui peut exister entre l'immobilité et la vitesse, entre la prudence et la lenteur, entre la réflexion et la vivacité, appartiennent de nouveau un peu à cette pensée qui n'a jamais voulu qu'on la définisse a priori, laissant le soin après coup, a posteriori, de l'être. C'est-à-dire que dans le fond, se définir après coup, c'est un petit peu se mordre la queue, comme replier sur lui-même le limaçon, plus tard l'escargot, simule la vitesse de l'éclair, qui n'est pas au chocolat.
Et l'infini de sa coquille.
Et l'infini de sa coquille, qui est très proche aussi de la gidouille des pataphysiciens. Même si nous avons tenu toujours, sans négliger aucune forme d'appartenance, mais à conserver nos distances à l'égard de tout type de groupe. Notre groupe, ce n'était même pas un groupe, ce n'était même pas une association, c'était une réunion.
De jeunes à l'époque?
Pas tous. En 57. Quelqu'un qui nous fut très précieux par ses conseils, il est à quelques mois de sa mort, c'est Paul Collinet, qui n'était pas de première jeunesse. Lui qui avait appartenu très tôt à Bruxelles, sinon au mouvement surréaliste en tant que tel, mais enfin, très très proche de Magritte, Suttner et Nouget. Et il y a d'autres moins jeunes qui... Mais vous savez, dans le fond, ça ne veut rien dire. Jeune ou pas jeune. Moi, je me sentais très jeune à l'époque. J'étais un petit peu même trop jeune que pour ne pas avoir honte de mes, non pas mes courtes culottes, hein, de, mais de mon inexpérience. Parce que j'étais entouré de gens qui en étaient pleins d'expérience déjà. Ils avaient connu le mouvement surréaliste de près, ici ou ailleurs, connu le surréalisme révolutionnaire, connu, vécu dans Cobra, connu et vécu dans d'autres aventures sur un plan plus pictural, comme la jeune peinture belge, comme le groupe art abstrait, le groupe spatialisme, etc. Donc il y avait là des courants dans lesquels moi j'arrivais avec l'énorme légèreté d'être, hein, d'un enfant de 16 ans ou 17 ans. Ça n'a rien de nostalgique. Après coup, on en sourit parce qu'on se dit que, hein, ça valait le coup. Alechinski, qui est rentré de Paris vers Bruxelles, vers ses, je suppose, ses parents, et, hein, ça a été souvent ici à Louvière. D'ailleurs, Cobra aussi, tendance contemporaine, a eu un certain nombre d'activités. Donc il y avait des liens, rien ne perd de rien, finalement. Donc Alechinski, ben, il a participé tout de suite au Délibule en envoyant des documents, des papiers, des idées reçues ou non reçues selon les moyens que nous avions pour pouvoir les diffuser. Nos moyens n'étaient plus que réduits.
Mais Glantine Lebac, quand vous évoquiez Paul Bury, n'est-ce pas l'ombre du surréalisme qui plane au-dessus de la Louvière ?
Oui, il y a évidemment cette ombre qui est là. Bon, il a participé aussi à d'autres mouvements. Donc, maintenant, il y a Achille Chavet aussi. Hein, l'ombre de Chavet plane aussi bien ici au centre des Libules qu'à la Louvière. Donc oui, clairement des grandes figures du surréalisme, mais qui ne sont pas restées cloîtrées dans des cases, en tout cas, surréalistes. Je pense qu'ils en sont sortis. Ils sont allés au-delà aussi d'un carcan, d'une définition. Et donc, du coup, ça donne des choses aussi qui sont un peu polymorphes, comme ça, qui permettent aussi de donner des sens à une pensée comme la pensée Bulle, qui n'est pas une pensée surréaliste, mais qui a ses racines, évidemment. Donc, clairement, il y a des racines surréalistes qui sont présentes, hein, à la Louvière, clairement. Et en même temps, ben, ces racines, elles ont permis de développer des arbres qui soient un peu différents de cette espèce, on va dire.
Sans moyens, l'obligation de mettre toutes nos mains, celles de Bury et les miennes, et celles d'autres aussi, mains nombreuses, à mettre ses mains à la pâte. On avait hérité d'une petite presse qui fonctionnait à côté de la salle de bain de Bury, ici, qui était libraire à la Louvière. Une petite presse qui avait servi à éditer un journal, La Voix de Lénine, révolutionnaire, et qui avait passé un certain nombre d'années dans la forêt de Marimont, sous plusieurs mètres de feuilles mortes. C'est-à-dire que la qualité de son travail, la précision de son travail était plus qu'aléatoire. Et on travaillait en utilisant des papiers de rebut qu'on trouvait aussi chez un imprimeur à l'époque. Dans le fond, notre pauvreté à l'époque a été un élément, à mes yeux, fort important, parce qu'il nous obligeait d'inventer. Si nous avions eu, comme on l'a aujourd'hui, la possibilité d'utiliser la photocopieuse, nous aurions fait des fanzines comme d'autres l'ont fait. Et peut-être n'aurions-nous pas trouvé la voie qui a fait, après coup, intérêt. Mais on imprimait, on faisait sécher, on pliait, on agrafait, on découpait. Il n'y avait même pas de cutter à l'époque, hein. On faisait ça avec des lames de rasoir. Bon, on faisait des petits trucs. Il y a même eu un numéro du début que Bury et moi avons fait complètement à la main. C'était le début des marqueurs. Ce qui était les feutres, c'était fascinant. Il n'y en a pas deux les mêmes. Et c'était fait sur du papier de boucherie. Le papier de boucherie, on pouvait non seulement se le procurer à bon prix chez les marchands de papier pour ce type de commerce, mais même éventuellement trafiquer avec le marchand de steak ou de fil américain pour avoir des papiers aussi, comme pour les papiers. Les papiers des fleuristes, bon, on ne pouvait pas se payer une rame de papier, non. Il fallait on jouait, on inventait, et très souvent, comme on l'a fait d'ailleurs avec les illustrations, les clichés, on n'était pas capable financièrement de nous faire des clichés pour illustrer des textes, mais on trouvait notamment chez certains amis ou dans des brocantes ou chez de vieux imprimeurs des clichés, et nous écrivions les textes en fonction des clichés que nous trouvions et non pas l'inverse. Cela révèle d'ailleurs de notre part une volonté aussi d'en montrer plus qu'on ne pouvait, une certaine forme de faux luxe. Et ce faux luxe, il se traduisait aussi par les noms de certains collaborateurs qui n'étaient finalement que des prête-noms. On faisait un peu toute la farine dans le même moulin, mais en se donnant des têtes de céréales différentes. C'était le cas pour des tracts aussi, ou des noms inventés prêtaient à nos textes peut-être un peu plus de poids. Il est plus intéressant de signer un tract à 15 ou à 20 que de le signer tout seul ou à deux. C'est élargi, non seulement l'autorité du propos, même s'il est tout à fait léger, l'écurie exagère par exemple, mais cela donne aussi à ceux qui lisent le tract l'impression que le message qui leur est adressé a aussi plus de poids.
André Balthazar, interviewé à l'occasion de l'exposition à la Maison du spectacle La Bellonne, à Bruxelles, Les 40 ballets et quelques du Délibule, en 1998. C'est l'aspect d'engagement, et là je pense à un homme de théâtre issu de cette ville, Jean Louvet,
oui.
Et puis Achille Chavée
Achille
aussi.
Oui, il y a un engagement aussi, donc en plus de cette imagination, de cette création, il y a aussi un sentiment de révolution, d'aller à l'encontre de l'ordre établi aussi. Bon, il y a un passé de manifestation, le fusil brisé, etc., ici à la Louvière, qui est toujours présent. On le voit, on l'a vu encore récemment, les manifestations, les grèves, il y a encore aujourd'hui un mouvement qui est très présent.
Églantine Lebac.
Ça fait partie aussi des racines. Un mouvement de contestation comme le surréalisme ne peut pas naître non plus à un endroit où tout est beau, tout est merveilleux. Donc clairement, oui, c'est lié à l'histoire, à la géographie. Et donc oui, cette contestation, on la retrouve au Délibule, on la retrouve dans ses chroniques, dans cette exposition. Donc oui, est-ce que c'est une marque de fabrique louviéroise? C'est possible.
Réfléchir justement sur la spécificité des fonds d'archives qui sont souvent des centres où on s'occupe avant tout de classement, d'inventaire, de numérisation. Et en fait, on ne sait pas les faire vivre pour le public. Et peut-être un peu la magie et la richesse des fonds d'archives ici au Délibule, c'est qu'ils recèlent effectivement des pépites un peu à l'image de leurs auteurs, qui font partie de ce mouvement surréaliste, de ce mouvement bulle, si je puis dire. C'est assez prodigieux. Je veux dire, bon, moi, c'est vrai que j'ai fait toute ma carrière à Marimont, 40 ans. Donc là, il y avait les archives Raoul-Waroquet, dans lesquelles je me suis souvent plongée, qui sont tout à fait différentes, qui sont ultra précieuses, parce qu'en fait, ce Waroquet, il notait tout, il gardait tout, même le mot qu'il faisait à son jardinier, il signait la note de frais des commandes, des plantes pour le parc. Bon, franchement, quand on voit ça, c'est tout à fait... C'est pas parlant, mais en fait, à partir de ça, on peut écrire l'histoire du domaine, quoi. Donc, les archives, c'est vraiment un monde assez, assez fascinant. Et c'est vrai, quand on est quelqu'un, un archiviste... il y a une petite connotation un petit peu, j'ai dit archivée, je n'ai pas dit bibliothécaire. Archivée, connotation, je ne vais pas dire ennuyeuse, mais enfin, plus quelqu'un qui travaille en circuit fermé, si je peux dire. Et ici, c'est vrai que ces fonds recèlent vraiment des pépites, et alors, enfin, ce que j'aime beaucoup ici dans ce centre, c'est sa vitalité, son ouverture, parce qu'en fait, dans des grandes institutions, je ne vais pas citer celle auquel je pense, hein, il y a une espèce de rigidité de plus en plus, de plus en plus, hein, parce qu'il y a un souci vraiment de ne pas toucher des pièces, on est passé dans un excès d'imposer des tas de conditions pour accéder à des fonds, et ici c'est ce qui, je pense, aussi motive des personnalités très diverses, comme celles qui sont réunies dans cette exposition, parce qu'elles sont très diverses, à déposer ici des fonds d'archives. Alors que c'est une jeune institution, puisqu'elle n'a que 10 ans d'âge. Vous voyez, il y a une équipe qui est réduite, hein, il n'y a pas... voilà. Et donc, ça, je trouve ça extrêmement encourageant. Marie-Blanche Delattre.
À la Louvière, au centre des Libulles Enco, jusqu'au 5 mai, les incongrus, les archives sortent de leur réserve. Avec Églantine Lebac, Aurélie Willems, Marie-Blanche Delattre et Georges Vercheval.
Bon, par exemple, la numérisation, mais on est dans une autre catégorie de fonds à Marimont. Il y a la collection des manuscrits et autographes. Ça, c'est une collection extraordinaire, puisque... Il y a le manuscrit de la valse brillante de Chopin, il y a une des 7 lettres de Rembrandt. Donc là, on est dans un autre registre. Et effectivement, cette collection, en fait, elle n'était absolument pas connue. Parce que si on réfléchit à Marimont, Waroquet mort en 17, il a fallu les années 35 pour que le premier conservateur arrive à Marimont, Paul Feder, puis la guerre 40-45. Et puis après, bon, Marimont commence un peu à vivre, puis cet incendie de 60 qui remet le musée, je veux dire, dans l'ombre pendant plusieurs années. Et puis la réouverture en 75, et là, le musée qui commence à se développer. Donc toute cette collection d'autographes, en fait, elle est très peu connue, il y avait quelques petits articles, et le fait de l'avoir numérisée, donc si vous allez sur le site de Marimont, vous tapez Chopin, vous tapez Rembrandt, et vous avez directement la référence des autographes. Donc là, c'est un outil extraordinaire, cette numérisation. Ça, c'est incontestable, parce que c'est vrai que ces documents-là, un visiteur vient à Marimont, on ne lui sort pas la lettre de Rembrandt pour qu'il puisse la manipuler à sa guise, ça c'est certain. Quoi.
Numérisation.
Oui, c'est pratiqué avec le plan PEPS de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc à chaque fois, il y a une volonté de mettre en avant certains fonds d'archives. Par exemple, le fonds des Libulles a été entièrement numérisé.
Exposer des livres. Et même, moi, j'ai toujours réfléchi à la thématique lire à l'exposition. Une exposition de livres n'offre pas la possibilité de lire les livres. C'est vraiment... une problématique que j'ai jamais su résoudre, je dois dire. Et donc ici, d'abord, qui dit exposition, il faut que visuellement, ce soit agréable à l'œil, que ce soit harmonieux, qu'il y ait un équilibre dans la présentation des ouvrages. Alors on a quand même voulu privilégier, vous voyez, tout cet espace, ce sont les écrits de Pierre Putemans, ce qui était, bon, qu'on connaît comme architecte, mais aussi comme écrivain. Et donc, vous voyez, même... on a sorti des petites notes pour que ceux qui veulent découvrir Putemans puissent le faire.
Pierre Putemans, comment écrivez-vous Fantomas ?
Avec PH. C'est comme Fantomas, mais avec PH. Et en fait, le PH provient, je pense, je suis sûr, d'un hommage à Alfred Jarry. Il y avait dans les fondateurs de la revue Fantomas, des membres du collège de pataphysique qui avait été fondé par Jarry. Et voilà.
C'est une sélection qu'on a trouvée dans son fond. Je dois vous avouer qu'on n'a pas passé 6 mois à dépouiller complètement le fond. Donc on est un peu allé au flair, véritablement, donc des choses qui nous paraissaient incongrues. Et donc voilà, il y a un ensemble surtout d'écrivains de qualité, je pense. Des choses qui sont un peu des grands classiques comme Mallarmé, Le coup de dé, voilà. Oui, qui est une pompe à vélo, ça c'est l'incongru. C'est vraiment la pièce incongrue de la vitrine, parce que C'est pas typiquement, on se faisait du vélo, mais là, c'est Aurélie, je pense, qui nous a guidés dans le choix de cette pièce. Voilà, le mouvement Cobra auquel il était lié.
Pierre Putemans, à l'occasion d'expositions à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, de la revue Fantomas, en 2005.
En 1953, trois personnes qui étaient Théodore Koenig, Joseph Noiret et Marcel Avrène, qui venaient de prendre congé de Cobra en quelque sorte, puisque Cobra venait d'arrêter ses activités déclarées, ce qui ne veut pas dire qu'ils se sont tous sabordés, bien au contraire. Mais en fait, Cobra comme groupe constitué, plus ou moins constitué, a terminé au début des années 50, comme chacun sait, ou devrait savoir. Et il y avait une série de gens qui étaient un peu orphelins de ça. Joseph Noiret, qui était un des fondateurs de Cobra et qui est poète. Théodore Koenig, qui avait été très proche de Cobra, mais physiquement pas tellement, puisque à l'époque de Cobra, il vivait au Canada. Mais il était en relation épistolaire constante avec ces gens. Et Marcel Avrène, qui était un peu à cheval sur le surréalisme et sur Cobra. Et ils ont eu envie de faire une revue qui soit pas dans le courant académique de nos lettres belges. Et il y avait d'ailleurs une revue de ce type qui avait été fondée à Verviers quelques mois auparavant, qui était Temps Mêlé, fondée par le bibliothécaire de la bibliothèque de Verviers, André Blavier, et qui est devenu, bien avant sa mort, le dépositaire du fonds Raymond Queneau. Voilà. Et d'ailleurs, Blavier a accueilli le premier numéro de la revue Fantomas, dans Temps Mêlé. Et puis le second numéro était un numéro autonome, mais on a gardé des rapports très amicaux et très proches avec lui.
Alors vous, Pierre Putemans, puisque vous parlez de « on », quand avez-vous rejoint la revue ?
Plus tard, parce que je suis plus jeune que les personnes que je viens de citer. Je les ai rejoints en 1960.
Là-bas, une très belle petite collection de livres où il y a Collinet, etc. Voilà.
Donc le groupe de départ, c'était Avrène, Koenig et Noiret. Avrène est mort en 57. Et alors, Marcel et Gabriel Picret sont venus s'adjoindre au noyau de Fantomas.
Comment les choses se sont mises en place?
Et puis, peu après, Paul Bourgogny, François Jacquemin et moi. Voilà.
Alors, une revue et sept auteurs, on disait, sept types en or. Pierre Putemans.
C'est une appellation non contrôlée, inventée aussi par Koenig, suite d'ailleurs à un film policier italien. Je ne me souviens pas exactement du titre de ce film, mais enfin, voilà, c'est inspiré de ça. Pourquoi 7, pourquoi pas 8, pourquoi pas 6 ou 10 Peut-être parce que nous étions les plus proches les uns des autres, mais il y a des gens qui nous ont accompagnés tout le temps de manière très proche aussi, comme Skutner, mais qui était lui resté très proche des surréalistes. Paul Bourgogny aussi restait très proche des surréalistes, mais ça n'empêche pas. Il y avait des gens avec qui nous avions des rapports légèrement plus lointains, comme Chavet, par exemple, qui a beaucoup, entre guillemets, joué avec nous. Voilà. Pourquoi c'est, je ne sais pas.
Alors, peut-être question centrale, cette revue Fantomas avec PH est une revue littéraire, mais quelle était sa préoccupation, Pierre Putemans?
Ben, c'est effectivement une revue littéraire. Donc, nous rassemblions sur des thèmes, souvent, mais pas toujours, des textes poétiques qui nous paraissait intéressant, qui avait la caractéristique de ne pas être académique, d'être très très tendu dans l'écriture et hypotendu dans l'expression, si j'ose dire. D'ailleurs, on a fait un numéro dit numéro hypotendu, et dont la couverture avait été faite, c'est une série d'images qui représentent des hippopotames, tirées d'une petite boîte d'imprimerie pour enfants. Bien, fermons cette parenthèse. Donc on rassemblait des auteurs qui nous paraissaient intéressants, parce qu'ils ruaient dans les brancards, dans les brancards traditionnels et académiques, mais pas du tout. Nous n'avons jamais pris collectivement de position philosophique ou politique. Individuellement, oui. Plusieurs d'entre nous avaient une position très nette du point de vue politique. Je pense à Paul Bourgogny, je pense à moi-même. Mais d'autres s'en fichaient intégralement. Il y en a dont je ne sais absolument pas quelle position ils pouvaient avoir dans ce domaine-là. Alors, ce que nous avons fait aussi, autour de nous, nous avons rassemblé pas mal de peintres. Pas dans l'esprit de Cobra, parce que la présence des peintres dans Cobra impliquait une création collective sur le vif, je dirais, comme les travaux Noir et Van der Kam ou bien Van Anderlecht di Preo, etc. Mais nous étions très proches d'une série de peintres issus soit du mouvement Dada, comme Wouter ou Paul Joostens, aussi étant des gens qui étaient en dehors des grandes autoroutes traditionnelles. Il y avait une série d'Italiens qui me paraissaient assez intéressants, comme D'Angelo, Scanavino, etc.
Petite question, Georges Vercheval. Vous êtes allé dans la maison construite par le père à Uccle pour choisir les ouvrages?
Non, pas moi. Bon, Le Délibule, évidemment, c'est toute une structure avec Aurélie Williams qui est l'archiviste. Et c'est elle, évidemment, la grande prêtresse de tout cela.
Accepteriez-vous, Pierre Putemans, le fait que la revue Fantomas participe de ce qu'on a appelé en Belgique les irréguliers du langage?
Dans la mesure où l'irrégularité ne signifie pas le langage fautif, oui, bien sûr, bien entendu. C'est une appellation non contrôlée aussi, qui ne vient pas de nous d'ailleurs. Mais enfin, oui, on a participé aux manifestations des irréguliers du langage. Il y a eu cette grande exposition au Centre Wallonie-Bruxelles notamment. Je ne sais plus si nous avons participé à ça individuellement ou en tant que groupe constitué, ça j'avoue, je ne sais plus. Mais... d'accord. Encore une formulation qui a été, je pense, inventée par Koenig, mais je suis moins sûr, c'est l'appellation Belgique sauvage.
Quand on fait un choix comme celui-ci, on est toujours très frustré, parce qu'on part toujours d'un choix fait dans un choix fait dans un choix. Les archives, c'est plutôt fait pour des gens qui doivent... Au-delà de cela, parce qu'on est frustré, évidemment, de ne pas pouvoir ouvrir ces livres, de ne pas pouvoir lire les nombreuses lettres qui existent, toutes les petites notes, tous les carnets de dessins, etc., que Pierre Putemans a pu rassembler, on est frustré, et en même temps, il faut le montrer pour donner l'envie d'aller plus loin, à tel ou tel chercheur, à tel amateur d'incongruité.
Il y a d'ailleurs, il y aura à l'exposition de Fantomas, nous avions demandé à un artiste qui s'appelle Eugène Quix, de faire un arbre généalogique de la Belgique sauvage et où on montre la façon dont les revues sont nées les unes après les autres, se sont influencées les unes les autres, etc. Il y avait évidemment une série de revues surréalistes, mais il y avait d'autres choses. Et nous avons toujours refusé l'étiquette surréaliste, bien sûr, mais nous n'étions pas des ennemis des surréalistes, nous étions ailleurs, c'est tout.
Si vous me dites, Pierre Putemans, on a toujours refusé, c'est qu'on vous assimilait.
Souvent, oui. Souvent parce que nous avions, disons, une façon un peu insolite d'écrire, parce que Vous savez, le mot surréaliste est utilisé à toutes les sauces. On entend telle ou telle décision politique et on dit c'est surréaliste. Hein.
Quelle était la vie de la revue, puisque vous vous rassembliez, je suppose, pour lancer des thématiques? Comment ça fonctionnait, Pierre Putemans?
Bon, on avait des réunions qui se tenaient chez l'un ou chez l'autre, la plupart du temps chez Koenig, qui avait géographiquement une position centrale par rapport à tout le monde. Il habitait à Uccle, avenue Floréal. Mais ça pouvait se passer chez moi ou chez Gabriel Picret, une fois, qui habitait à Rode-Saint-Genèse. Et alors, on discutait ensemble des thèmes à aborder. Il y avait souvent des gens qui participaient, alors, soit des peintres ou des musiciens, parfois des amis. On a eu quelques musiciens. Plusieurs d'entre nous étaient très proches du jazz. Les frères Picret étaient très, très jazz. Noiret, par contre, était très proche de la musique sérielle, de gens comme Stockhausen et autres. D'ailleurs, Stockhausen a participé à un de nos numéros. Quand le thème qu'on avait choisi paraissait collé aux préoccupations de tel ou tel artiste, on faisait appel à lui, oui.
Qui étaient vos lecteurs?
Ah, c'est une bonne question. En fait, c'est une revue qui était, je vais le dire sans forfanterie, célèbre internationalement sur le continent sud-américain comme en Europe ou ailleurs. Mais le tirage était faible. On tirait à moins de 1000. Et donc, c'était vendu dans quelques librairies amies, comme la Proue chez Mercier, hein, dans des librairies à Paris aussi. Ailleurs aussi, il y en avait un peu partout dans le monde. Ça n'est pas comparable à Paris Match, ni à la NRF.
C'était une de ses volontés, en fait, que ses archives, tant bibliothèques que manuscrits, documents quotidiens, en fait,
Aurélie Willems,
tout ce qui le liait à son activité de poète, soit rassemblé, conservé et valorisé ici au Centre des Libules. Donc on a eu un premier contact avec Marianne Putemans et Toinon. Donc on est allé dans cette maison à Uccle, on a vraiment beaucoup discuté avec elle, et ensuite les séances de travail hebdomadaires, donc une fois par semaine à son domicile, dans sa pièce de travail, a vraiment scindé les documents liés à son activité de poète, venait au Centre des Libules, et tout ce qu'on trouvait qui avait trait à son activité d'architecte, ben, ces documents-là partaient à la Cambre. Donc ça a vraiment été un travail de bénédictin, de prendre chaque document en main et de voir mais quel était le sujet principal finalement. Ce qui fait qu'on a pu rassembler toute sa bibliothèque. Et donc on voit vraiment ses centres d'intérêt, on voit quels sont les livres qui l'ont inspiré, quelles étaient ses lectures quotidiennes.
Et la pompe à vélo, de quoi s'agit-il? Aux yeux de mon père, cette pompe à vélo était précieuse, dit-elle.
Voilà, dit-elle. Ce qui est difficile quand on reçoit un fonds d'archives, c'est qu'on ne peut pas dire « voilà, cette pièce ne m'intéresse pas, celle-là n'a pas d'importance ». Non, c'est vraiment rassembler un maximum de choses autour d'une personne, d'une personnalité, pour plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans, pouvoir dire « ok, maintenant je comprends cette pièce ». Et donc cette pompe à vélo était dans son bureau, donc il la côtoyait au quotidien. Et donc, sa fille m'a dit « Écoute, cette pompe, il faut la conserver. Il faut savoir que mon père n'était pas sportif, ne faisait pas de vélo. Donc, aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais il faut savoir aussi que ma grand-mère, dans son agenda, tous les jeudis, elle indiquait cours de gymnastique. Et ma grand-mère n'était pas plus sportive que mon père. Donc, voilà. Dans 10 ans, peut-être, que nous allons comprendre cet élément. » Et donc, comme le thème principal de l'expo, c'est quand même l'incongruité des fonds d'archives, c'était vraiment la pièce maîtresse ici, dans cette salle Putemans, voilà, la pompe à vélo. Parfois, on conserve des vieilles paires de lunettes, une vieille écharpe en léopard, enfin voilà, toutes ces petites choses qui font que...
Certains d'entre nous aimaient bien se produire sur scène, c'était le cas de Marcel Picret. D'autres avaient horreur de ça, c'était le cas de son jumeau Gabriel ou de Paul Bourgogny, ils ne supportaient pas ça. Mais il y a eu de temps en temps l'un ou l'autre qu'on a sorti. Moi, je suis à la demande de la promotion des lettres belges. Je ne sais pas si ça s'appelait déjà comme ça. J'ai fait une interview au Public de François Jacquemin, où je l'ai supplié d'ailleurs de bien vouloir lire des poèmes en anglais. Je l'ai supplié pendant des heures avant qu'il consente. Mais enfin, bien, ceci est une anecdote. Mais donc, on se produisait de temps en temps, parfois au Théâtre Poème aussi.
On peut parler de Pierre Putemans,
Georges Bergerin. On peut parler de Pierre Putemans, pas beaucoup, mais on peut en parler.
Oui.
Oui, parce que je le connaissais un peu, évidemment. Hein, puisque j'ai fait partie avec lui de la Libre Académie de Belgique, cette académie parallèle, n'est-ce pas, qui a été fondée en 1902 et qui est morte en 2002. Voilà, on allait fêter le 100e anniversaire et puis voilà, ça n'a plus fonctionné. C'est mort de sa belle mort, ça doit mourir ce genre de choses, je trouve. Voilà. Mais Pierre Putemans était un membre actif de cette académie. On pouvait compter sur lui pour soudain réagir sur une question et démarrer parfois dans l'incongruité, hein, c'est clair. Hein, il était drôle comme tout, intelligent comme tout, vraiment un homme terriblement intéressant. Moi, je l'ai beaucoup apprécié, vraiment beaucoup.
Évidemment, la présence des escargots, qui ben voilà, restent le symbole du Délibule, avec toute la symbolique de la lenteur, de la coquille, de cette bulle, et une petite limace qui traîne parmi ces escargots, qui n'a peut-être pas encore trouvé sa coquille, en fait.
À la Louvière, au centre Délibule & Co, jusqu'au 5 mai, les incongrus.
Le Délibule aussi, la boîte du Délibule trône un peu au-dessus de ces fonds parce que ben, clairement le lien entre tous ces fonds d'archives, c'est un peu notre chance, c'est de conserver une pensée. Donc ça, je pense que c'est assez rare pour une institution de conserver une pensée. Donc nous, on a cette chance-là et cette pensée, on la retrouve chez différents artistes, différents auteurs, qui sont soit des fidèles collaborateurs du Délibule à la base, ou pas du tout, mais qui clairement ont intégré cette impertinence dans leur travail.
Les archives sortent de leur réserve. Avec Églantine Lebac, Aurélie Willems, Marie-Blanche Delattre et Georges Vercheval. Et les voix de André Balthazar, interviewé à l'occasion de l'exposition à la Maison du spectacle La Bellone, à Bruxelles, Les 40 ballets et quelques du Délibule, en 1998.
Ça, c'est
BJ. BJ, c'est un homme de la Louvière, Églantine Lebac.
De la région de Charleroi, en fait. Jean Petermans, donc, ou Petermans, qui à l'époque prend le pseudo de PJ. Ce qui est intéressant avec Jean Petermans, c'est que c'est un proche d'Achille Chavée. Achille Chavée plane évidemment hein, sur le centre Délibule & Co. Ce qui est intéressant, c'est que Jean Petermans, au départ, va réaliser beaucoup de toiles abstraites et va petit à petit introduire des petites caricatures qui sont pas tout de suite visibles, il faut vraiment s'approcher et les voir dans ces tableaux. Et Achille Chavée, qui était un passionné aussi d'humour noir, va vraiment pousser Jean Petermans dans la voie humoristique. Donc après ça, il devient PJ et réalise beaucoup de caricatures pour des journaux comme Le Soir, La Libre Belgique, Le Samoil, etc.
Et Pierre Putemans, à l'occasion d'exposition à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, de la revue Fantomas en 2005.
Ce qui est intéressant aussi chez PJ, c'est qu'il n'y a pas de texte. Tout est dit dans l'image et ça, il y a un côté esthétique qui est très beau au niveau du dessin, du graphisme, des couleurs.
Et quand on regarde l'image, c'est un humour qui est très mordant. Il y a une tendresse hein, toujours chez PJ, on sent qu'il y a un amour de l'humanité en fait, mais quelque part il arrive aussi à mettre en avant tous les défauts de cette humanité aussi. Voilà, mais il n'y a jamais un mot ou très très peu, donc tout est dit à travers le graphisme, et ça je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un fond qu'on vient de recevoir en fait, hein, qui arrive ici au centre des Libules. Et ça montre aussi, c'est ce que je disais, PJ, il a participé à certaines enquêtes du Délibule, comme l'Esprit de Clocher, etc. N'est pas un fidèle du Délibule, n'est pas un collaborateur régulier. Par contre, dans son art, clairement, il y a la pensée bulle qui est présente. Quoi.
Les incongrus par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Un dessin que je voulais absolument mettre dans cette exposition. Donc, c'est une salle d'attente d'un vétérinaire où il y a forcément une dame qui attend avec son chien dans sa petite cage et un monsieur qui attend avec son escargot en laisse qui est en train de ramper sur le mur. Voilà.